Mm. I do.
Ah oui, ça marche bien. Vous m'entendez bien partout? Super. Bon, bah, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, le titre de la conférence, c'était la vie quotidienne comme chemin spirituel, me semble-t-il. Donc, c'est effectivement ce dont je vais vous parler. De la façon dont notre vie quotidienne, vous essayez de vous donner un aperçu, parce que le chemin c'est vaste et c'est riche. Si on voulait être complet, il faudrait peut-être faire une dizaine de conférences. La façon dont la vie quotidienne, telle qu'elle est, avec ses joies et ses épreuves, avec ses moments plus exaltants et ses moments plus difficiles, peut devenir le support d'un véritable chemin spirituel. Et la vie quotidienne, tout au long de la journée, dans des choses très concrètes. Parfois, la vie spirituelle est associée, surtout si vous lisez de la littérature ou si vous regardez un peu tout ce qui se passe dans le monde, la vie spirituelle peut être associée à des décisions un peu drastiques de changer de vie. Le cas le plus extrême, c'est par exemple la vie monastique. On va tout quitter pour devenir moine. Voilà, si vous lisez les mémoires de Matthieu Ricard, vous voyez les sacrifices qu'il a fait de tout quitter. Il est devenu moine, il est parti vivre au Népal. Il a pris le tibétain. J'ai un autre ami qui s'est beaucoup intéressé à la Chine. Alors lui, il a pris le chinois, il passe la moitié pendant très longtemps, il a passé la moitié de ses années en Chine. Ce dont je vais vous parler, c'est pas de ça, c'est de vraiment comment vous pouvez, là, dans vos existences, telles qu'elles sont, c'est très très... Tout est là pour servir de support à un véritable chemin. Alors on va regarder un peu comment, à quelles conditions et comment. Il y a autre chose que je voudrais aborder comme pour présenter un peu l'angle d'attaque, c'est que dans le chemin spirituel, on peut l'exprimer de façon un peu différente, on peut côtoyer le sublime. Il y a vraiment, soit au niveau des idées, quand on parle d'amour inconditionnel, de paix, de joie, de joie sans cause, de béatitude, les idées, les personnes, soit les grands saints de l'histoire, comme Jésus ou le Bouddha, ou des grands maîtres spirituels, on rencontre des gens vraiment remarquables. On peut aussi faire des expériences. Peut-être certains d'entre vous en ont, il y a des expériences spirituelles qui peuvent nous tomber dessus, dans des contextes tout à fait profanes. Si on va dans un ashram en Inde et qu'on côtoie un grand maître spirituel, petit à petit, tout d'un coup, à son contact, dans certaines conditions, on sent, j'ai le cœur qui s'ouvre, je me sens beaucoup plus vigilant, beaucoup plus présent, beaucoup plus détendu. On peut, si je veux dire, monter très très haut. Et puis, après, ça va être le grand écart. D'un côté, on côtoie le sublime, puis après, on se retrouve dans sa vie quotidienne, par moments, avec son paquet. Et donc, il y a les épreuves, il y a nos dysfonctionnements. Et on se retrouve avec quelque chose qui peut être difficile à vivre, qui peut nous paraître un peu médiocre, un peu décevant. Des souffrances. Et ça peut être très cruel, ce grand écart. On peut imaginer un couple, j'invente un exemple, un couple normal, des gens qui s'entendent bien, avec quand même des frictions. Donc, ils vont ensemble dans un ashram en Inde, et puis là, pendant 15 jours, il se passe quelque chose, leur cœur s'ouvre, ils sont vraiment en relation entre eux, puis avec les autres, ils se détendent, il y a quelque chose de très paisible. Alors ça a un goût, puis les expériences qu'on fait comme ça sur le chemin, elles n'ont pas un goût artificiel, comme si, je sais pas, on est très excité. Quand on a des expériences comme ça, ça paraît très simple, très juste, on se sent vrai, beaucoup plus vrai que d'habitude. On dit ça c'est vraiment moi, mais voilà. Et puis après, alors, imaginons ce même couple, donc voilà, et puis ça dure quelques jours, puis après ce couple arrive, revient en France, et puis la vie quotidienne reprend. Imaginons qu'il y a, je sais pas, qu'il y ait des dysfonctionnements, enfin, comme dans tous les couples, il y a des frictions, il y a des traits de caractère, elle aussi. Bon, imaginons par exemple qu'il soit jaloux, qu'il ait beaucoup de mal quand sa femme parle à un autre homme, ils vont à une soirée, ça se passe comme ça, il y a une femme qui parle, sa femme parle à un autre homme, ça lui plaît pas, il essaye de se raisonner, et il fait semblant d'être de bonne humeur, et il essaye de... Puis finalement, ça le trahit de l'intérieur, puis il y a le trajet retour, et pendant le trajet retour, sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rien, mais si je vois bien que tu fais la gueule, et puis pouf, il explose. Vous voyez, une situation très concrète. Et donc, où elle est passée, où s'est passée ce truc merveilleux, tellement beau, tellement simple, tellement vrai, qui vivait ne serait-ce qu'un mois plus tôt. Donc il y a une nécessité. Hein, ce n'est pas pratique pour mettre la main dans la bouche. Non, mais ça va. Ça m'a obligé un peu de vigilance, ça peut me faire de mal. Donc le... Un peu écarter le micro de la bouche. Comme ça, là. Oui, mais sentez, il y a... oui, c'est mieux. Hein. Non. Le son est plus clair. Vous entendez encore au fond? Ok. Oui. Donc l'idée de la voie de la vie quotidienne, ou de la vie quotidienne comme chemin spirituel, c'est d'arriver à réduire cet écart. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas un grand écart et dont on ne sait pas... Parce que tout d'un coup, on a des expériences spirituelles ou des moments d'ouverture. Et puis après, quand on se retrouve avec ce paquet de difficultés relationnelles, d'épreuves, on peut se sentir très démuni. À quoi me sert pour gérer cette situation très concrète où je suis avec ma compagne, mon épouse, et que j'ai cette crise de jalousie et que je suis dans la voiture et qu'on commence à se disputer, en quoi ça va m'aider d'avoir eu cette expérience spirituelle 15 jours plus tôt? Comment arriver à réduire l'écart et surtout à ne plus être démuni, c'est-à-dire à pouvoir utiliser toutes les situations, de sentir même dans cette situation où je suis qui me semble être très représentative de mon monde de souffrance, de mon monde de difficulté, de ma limitation. Même dans cette situation, je peux faire un pas, je peux progresser, je peux utiliser ça pour mon chemin. Donc, et là, il y a un équilibre à trouver. Parce que si sur la voie spirituelle, on est trop intéressé par ce qui est sublime, par l'éveil... par l'amour, par les expériences spirituelles, on risque fort d'avoir un chemin qui va être un peu perché et qui va nous laisser démunis dans le quotidien. Et puis si on est trop dans une démarche d'amélioration du quotidien, en faisant des thérapies, en faisant du développement personnel, on va se dire, mais quelle est la différence entre la voix et la thérapie, par exemple, ou le coaching? C'est-à-dire la voix, ce n'est pas juste une démarche d'amélioration du quotidien. Il va falloir trouver une façon d'harmoniser tout ça, de relier tout ça. Alors, une idée fondamentale du... Alors, dans le chemin spirituel, il y a une promesse d'un état intérieur stable, de contentement, de paix... de joie, d'amour. Alors, l'idée fondamentale, c'est que cet état, qui est la promesse de la voie, on dira peut-être un jour, après un chemin bien mené, je vais arriver à être beaucoup plus proche, beaucoup plus stable dans cette paix, dans cet amour, dans cette joie, dans cette gratitude. Une idée fondamentale du chemin, c'est que cet état, il est déjà là, que c'est notre nature profonde, c'est un état fondamental. Les bouddhistes parlent de la bonté fondamentale. C'est notre vérité profonde, c'est ce qu'on est. Donc il n'y a pas à le fabriquer, il n'y a pas à le développer, c'est déjà là au plus profond de nous. Et c'est recouvert, enfoui, on pourrait dire, sur tout un tas, par quelque chose, par tout un paquet qui recouvre. Donc, et c'est ce paquet qui recouvre qu'il va falloir travailler. Donc par-dessus cet état de joie fondamentale, de contentement, si on peut dire le fait de se sentir tellement vivant, se sentir tellement vivant, intensément vivant à chaque instant, détendu, présent. C'est au plus profond de nous et c'est recouvert. Et c'est recouvert par... alors là, il y a pas mal de possibilités de description. On peut dire que c'est recouvert par l'égocentrisme et tous les mécanismes de l'égocentrisme. C'est recouvert par notre paquet de blessures et toutes les conséquences qui en découlent. Toutes nos peurs, nos conditionnements, nos attentes, nos stratégies de survie, nos frustrations, nos tensions. Donc l'idée de la voie, ça va être comment se désencombrer. Comment se dépouiller, comment se désencombrer. Mon père, Arnaud Desjardins, disait... il ne faut pas se demander ce que les sages, par rapport à nous, ce qu'un grand sage, ce qu'un grand maître spirituel, qu'est-ce que ce sage a en plus par rapport à nous. Il faut remarquer ce qu'il a en moins, ce qu'il a de moins par rapport à nous. Et ce qu'il a en moins, c'est justement par rapport à tout ce paquet qui recouvre. Il a moins de tension, il a moins de peur, il a moins... de haine de lui-même, moins de dévalorisation, plus de confiance en lui. Donc voilà, donc comment on va utiliser la vie quotidienne, les situations concrètes, à la fois pour se désencombrer, pour se libérer de ce paquet, pour laisser partir. Donc, comment je vais utiliser la vie quotidienne pour cheminer vers de moins en moins de peur, de moins en moins d'égocentrisme, de moins en moins de souffrance, surtout de souffrance, on pourrait dire, mentale. Et comment je vais pouvoir libérer, comme si cette profondeur qui est faite de joie, de paix, d'amour, elle ne demande qu'à s'exprimer. Comme on pourrait dire, si vous mettez, il y a un cours d'eau, et puis vous mettez un barrage, construisez un barrage, le cours d'eau, il est bloqué, de l'autre côté, alors il s'accumule d'un côté du barrage, et puis de l'autre côté, il n'y a plus d'eau qui coule. Mais l'eau qui est derrière le barrage, elle ne demande qu'à s'épandre. Vous supprimez le barrage, elle va reprendre son cours naturel. Donc on pourrait dire, la vie, le fait d'être vraiment vivant... le fait d'être dans la plénitude, d'être dans le contentement, d'être dans la détente, d'être dans la joie, ça demande qu'à s'exprimer. Mais le passage peut être bien obstrué. Donc voilà en gros les grandes lignes, les intentions. Donc la voie de la vie quotidienne. Il y a plusieurs façons d'aborder... la vie quotidienne comme chemin spirituel. Nous, ce qu'on propose, ce qu'on a reçu du maître d'Arnaud Desjardins, là, qui s'appelle Swami Prajnapada, et ce que j'ai reçu de mon père, Arnaud Desjardins, c'est une voie de connaissance. Donc il va falloir faire connaissance avec ce qui nous encombre pour pouvoir nous désencombrer. Swami Prajnanpa disait, on est libre de ce qu'on connaît. Donc si on s'intéresse, si par exemple notre intention c'est d'être profondément vivant, on va s'intéresser aux forces mortifères. Si notre intention c'est l'amour, on va s'intéresser à tout ce qui en nous peut être du non-amour, l'égoïsme, la colère, la haine. Si notre but c'est la joie, on va s'intéresser à la souffrance. Une forme de connaissance de soi qui va nous permettre une guérison. Alors là, il y a une décision, il y a quelques choix à faire qui sont très importants. Et le premier, et ça doit être très clair, c'est vraiment une intention de passer du jugement à la connaissance. Et ça, c'est pas une mince affaire. Tant la puissance, le jugement est fortement ancré en nous. Alors, le jugement, face à, ça peut être des jugements sur les autres, sur les situations, ou sur soi, le jugement, c'est toujours de qualifier. C'est bien, c'est mal, ça devrait être comme ça, ça devrait pas être comme ça. C'est admirable, c'est méprisable, c'est enviable, c'est pas enviable. C'est beau, c'est laid, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. C'est le monde du jugement. Et il y a vraiment une décision à prendre, de se dire, moi, je vais essayer de quitter le monde du jugement pour rejoindre celui de la connaissance. Et la connaissance, c'est pas tellement de savoir si c'est bien ou si c'est mal, ou si c'est admirable ou méprisable, c'est de savoir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Démarche de connaissance. Et c'est très important par rapport à soi. On va faire une démarche de connaissance de soi, donc de vraiment de regarder qu'est-ce que j'ai comme jugement sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai comme jugement sur moi-même ? Des jugements, je suis bien, j'ai été intéressant, alors je vais à une soirée, après je me reproche, j'ai pas été intéressant, j'ai été nul, je me suis déçu, j'étais trop timide, j'étais trop exubérant, j'ai pris trop de place, j'ai pris pas assez de place. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on va faire connaissance comme ça avec toutes les grandes forces qui nous habitent. Qu'est-ce que c'est la peur ? Qu'est-ce que c'est la souffrance ? Qu'est-ce que c'est le désir ? Comment je fonctionne, comment j'entre en relation avec les autres, dans quel est l'état intérieur du moment. Le monde, passer du jugement à la connaissance, c'est aussi renoncer au désir de convaincre ou au désir d'avoir raison. Ce que je suis, tel que je suis, ici et maintenant, dans la connaissance de soi, c'est aussi quelque chose de très important de vraiment privilégier l'expérience. Quelle est l'expérience que je suis en train de faire ? Plus important l'expérience que les idées, que les croyances, que les... toutes les pensées qu'on peut avoir sur ceci ou cela, ou même les projets qu'on peut avoir, l'expérience. La voie, c'est vraiment une question d'expérience, pas de croyance. On a reçu un prêtre à Hauteville, là où je travaille, là, il y a quelques jours, le curé du village, en fait, et alentour, et il nous a dit... Oh, mais moi, dans ma formation de prêtre, il y avait tous ces cours de philosophie. J'avais du mal à les suivre. Et comme s'il avait un peu honte, toute cette philosophie. Parce que moi, pour moi, ce qui était important, c'était l'expérience. Alors, il y a l'expérience. Oui, on va faire toutes les expériences qui nous sont données. Alors, L'expérience, c'est vraiment l'expérience de la condition humaine. On va faire l'expérience de la peur, l'expérience du désir, l'expérience de l'amour. Mais c'est quoi l'expérience que je fais ? Faire des expériences spirituelles aussi. Et on peut se rendre compte, par rapport à l'expérience qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est vraiment dedans ? Comment on la vit ? Est-ce qu'on la vit vraiment à 100% ? Oui, je recevais une femme en entretien, là, cette semaine, qui me dit « Chaque fois que je fais quelque chose, je pense à ce que je vais faire après. » Donc quand elle fait... quand elle est chez elle et qu'elle fait les choses chez elle, elle pense « Après, quand j'aurai fini ça, il faudra que je fasse les courses. » Quand elle fait les courses, elle se dit « Bon, ben, quand j'aurai fini les courses, il faudra que je prépare le repas. » Quand elle prépare le repas, elle se dit « Mais bon, après, on passera à table. » Et il faudra que je débarrasse, et je ne sais pas quoi. Il y a toujours l'expérience, ce n'est pas l'expérience du moment. Il y a l'expérience du moment, et elle n'est pas dedans, parce qu'elle pense à l'expérience qui va venir après. Donc il y a plein de façons de ne pas être tout à fait dans l'expérience dans laquelle on est. Il y a la toutes les... Et là, on va retrouver tous nos fonctionnements. Il y a la culpabilité, la peur, la pensée... La comparaison. Donc le fait de pouvoir revenir vraiment à l'expérience du moment. Et donc ça implique de ne pas avoir de jugement. Ça va ensemble. Si j'ai un jugement sur ce que je suis en train de vivre, je ne vais pas le vivre. Je ne vais pas arriver à faire connaissance avec ce que je suis en train de vivre. Donc pour développer l'expérience, qu'on ait le goût de l'expérience, le fait d'être vraiment dedans, pour pouvoir la vivre et apprendre quelque chose, il y a vraiment une question qui est très importante, c'est la sensibilité. Est-ce que je suis capable de ressentir, d'éprouver, ou est-ce que ma capacité à ressentir, est-ce que ma capacité à éprouver a été... émoussé. Est-ce que je me suis petit à petit insensibilisé ? Est-ce que je me suis un peu fermé, un peu blindé ? Et c'est quasiment inévitable parce que avec notre monde de blessures, on a tous nos blessures, on est tous passés par des souffrances, des déceptions, et une des principales conséquences d'être dans un, d'avoir eu des blessures, c'est d'avoir fermé, d'avoir un peu blindé pour ne pas ressentir. Certaines expériences sont devenues... il suffit d'avoir eu une expérience un jour amère, douloureuse ou trop difficile pour nous, enfants par exemple, pour avoir pris une décision, pas une décision consciente, pour que notre psychisme prenne la décision... de diminuer l'intensité des expériences. Donc il y a tout un chemin de retrouver la sensibilité comme instrument de connaissance, comme condition de l'authenticité. Est-ce que je vais être vraiment authentique ? Donc ça, je dirais, c'est le premier choix à faire, de vraiment de rentrer dans le... sur le terrain de la connaissance, et pas une connaissance, c'est pour ça que je parlais de l'expérience, pas une connaissance intellectuelle, vraiment une connaissance qui passe par le fait de vivre les choses, de les éprouver, d'être complètement dedans. Quoi que ce soit. Alors il y a des expériences qu'on aimerait bien, des expériences qui sont agréables, si je suis au bord de la plage, si je suis à la plage, au bord de la mer, il y a du soleil. Mais bon, après il y a des expériences... qui font partie de la vie, hein, notamment l'expérience de la souffrance ou de la peur. Voilà. Et la deuxième condition, après je rentrerai plus dans les détails avec des exemples plus concrets. Il y a un deuxième choix à faire qui est de l'ordre de l'acceptation. ou d'être d'accord, ce qu'il a avec l'acceptation. Alors l'acceptation, c'est le fait d'être en accord, et surtout je parle de l'acceptation de soi, là, d'être en accord avec ce que je vis. Voilà, j'ai me proposé une expérience, parfois je la choisis, hein, si j'y vais au bord de la mer, je vais faire une expérience que j'ai largement provoquée, mais parfois des expériences qui me tombent dessus. Je sais pas, en tout genre. Hein, par exemple, je sais pas si j'ai une rupture amoureuse, je vais faire une expérience de séparation. Si je suis un peu timide, bah, tout d'un coup, je vais faire une expérience où je perds mes moyens. Le fait de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans le monde extérieur, je peux faire des tris. Vraiment, dans le monde extérieur, il y a mes amis, et puis les gens que j'ai envie de voir, des gens que je préférerais éviter. Par rapport à notre monde intérieur, vraiment, de prendre la décision, chacun de mes états intérieurs... Et mon ami, ou mon propre cœur est mon meilleur ami. Vous voyez, dans le monde extérieur, il y a des gens à qui je peux donner le statut d'intrus, qui me dérangent quand ils frappent à ma porte, et puis d'autres à qui je peux donner, l'autre c'est mon meilleur ami. Donc quand ils frappent à ma porte, ça dépend de son caractère et de ses préoccupations. Bon, à Saint-Laurent-du-Pape, où j'habite, il y a pas mal de congrégations religieuses, comme les Témoins de Jéhovah ou les Darbistes, qui sont un peu militants. Donc ils viennent faire la promotion de leur foi. Donc j'avoue, quand un témoin de Jéhovah frappe à ma porte, je me mets dans un mode courtois, avec l'idée comment je vais faire à la fois pour l'accueillir, être gentil, pas être désobligeant, et en même temps que ça ne dure pas trop longtemps. Mais si mon meilleur ami frappe à la porte, à ce moment-là, j'ai un autre... Ce n'est pas du tout la même chose qui se passe dans mon cœur. J'ai quelque chose qui s'ouvre et j'ai envie de lui dire « rentre, bienvenue ». Et si je vois qu'il n'est pas bien... Tu vois qu'il n'est pas bien, il est complètement bouleversé. Ou il est très sympa, très heureux, il me dit « tu sais pas, j'ai une bonne nouvelle », ou alors il est complètement bouleversé, ça m'est égal. Qu'il soit très heureux ou qu'il soit vraiment dans un état de tristesse, de chagrin, de désespoir, ça m'est égal. Il arrive, comme c'est mon meilleur ami, j'ai d'emblée quelque chose qui s'ouvre, de chaleureux, et je lui dis « rentre », sauf quatre forces majeures. Puis rentre, installe-toi, mets-toi à l'aise, je modifie mon emploi du temps, je fais de la place, je reste avec lui, je lui dis « qu'est-ce qui t'arrive ?» Et ça, quel que soit son état intérieur. Alors, est-ce qu'on peut transposer cette attitude à nos propres états intérieurs ? En gros, de se dire « bon, mon cœur... » Et mon meilleur ami. Quand même terrible d'avoir de l'hostilité envers son propre cœur. Et c'est très fréquent. J'ai un état intérieur, je suis triste, je suis pas content. J'ai peur, je suis pas content. Je veux m'en débarrasser, je veux que ça aille vite, je vais à une soirée, je veux être à l'aise, j'ai un assaut de timidité, je suis pas content. Je ne suis pas content, je ne vais pas faire connaissance. Je ne vais pas aller à la rencontre. Je ne vais pas accueillir ce que je vis dans une attitude profonde, en fait, de bienveillance et de tendresse. Alors là, pour certaines personnes, ça va assez vite. Il y a une rééducation qui se fait assez facilement. Pour d'autres, c'est difficile. Parce que la bienveillance envers soi-même, c'est pas du tout acquis. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Le Dalai Lama aurait réuni un certain nombre de Tibétains, d'instructeurs bouddhistes qui enseignent en Occident. Il les aurait réunis et il leur aurait demandé « Pour vous, c'est quoi la principale difficulté des Occidentaux ?» Et tous les instructeurs auraient dit « Ils ne s'aiment pas eux-mêmes ». Et là, le Dalai Lama, il n'aurait pas compris. Il leur aurait fait répéter plusieurs fois, de quoi vous parlez ? Et donc, et puis une fois qu'il a compris, il aurait dit, mais tout être humain a le droit à l'amour. Autrement dit, si tout être humain a le droit à l'amour, et que je ne m'aime pas, moi-même, je me prive de ce droit fondamental. Donc il y a un enjeu clé du chemin. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression l'observation de soi, ou l'observation sans qualification, dans une démarche de connaissance de soi. Il y a un enjeu fondamental du chemin, qui est l'observation de soi, sans qualification, c'est-à-dire c'est ce dont je viens de parler, hein, sans se juger. Et là, il y a deux dimensions qui sont très importantes. C'est l'état intérieur et la relation à l'état intérieur. Je vais un peu plus loin dans ce que je viens de vous dire, là, du fait de s'accepter soi-même. Donc si on observe, il y a nos états intérieurs, et nos états intérieurs sont changeants. La succession de nos états intérieurs changeants. Un jour je suis heureux, un jour je suis malheureux, un jour je suis en colère, un jour je suis plein d'amour, un jour je suis en pleine forme, un jour je suis très fatigué. La succession de nos états intérieurs changeants, comment est-ce que je me sens ? Ce que je suis tel que je suis ici et maintenant, comment est-ce que je me sens ? Et il y a la relation à nos états intérieurs. Quelle relation j'ai à cet état intérieur ? Donc, l'état intérieur du moment, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis malheureux ? Et puis la relation à l'état intérieur, c'est est-ce que je suis d'accord pour être comme ça ? Est-ce que j'ai une attitude bienveillante envers cet état intérieur ? Est-ce que j'ai une attitude faite d'empathie, d'accueil, de tendresse, de douceur, de patience, d'acceptation, de chaleur, ou est-ce qu'au contraire j'ai une mauvaise relation ? Est-ce que j'ai des jugements ? Je me dis je ne devrais pas être comme ça ? Est-ce que je fais des comparaisons ? Est-ce que je me refuse ? Ou au contraire, si c'est un état désagréable, je le refuse. Si c'est un état que je trouve agréable, je le saisis, je m'en empare, je le surjoue. Est-ce que je veux m'en débarrasser ? Est-ce que je veux le retenir ? L'état intérieur, la relation à l'état intérieur, du côté de l'état intérieur, l'expérience que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, ce que j'éprouve en ce moment, ce qui se passe en moi en ce moment, et de l'autre côté, la relation à l'état intérieur. Est-ce que j'ai une bonne relation ou une mauvaise relation ? Et une grande partie du chemin, et ça, peut, quand je disais la voie de la vie quotidienne, ça peut être fait partout, hein, ça peut être fait dans le métro, ça peut être fait dans la voiture, en allant au boulot, en revenant, ou je prends 5 minutes, il y a quelque chose qui m'a perturbé, là je suis à mon travail, il y a une interaction, ça m'a perturbé. Je prends 5 minutes, j'essaie de m'isoler 5 minutes, et là je peux me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'éprouve et quelle est la relation que j'ai à ce que j'éprouve ? Du côté de la relation, on va essayer d'aller vers une bonne relation, vers une relation simple, une relation faite d'accueil. Et du côté de l'état intérieur, l'idée, c'est de passer de la surface à la profondeur. De descendre dans la profondeur. C'est quelque chose qui va, alors voilà, je sais pas, j'ai une espèce de gêne. Parce qu'au début, notre état intérieur, il peut apparaître avec une certaine confusion. On ne sait pas trop ce que c'est. Je sens, j'ai une espèce de gêne, j'ai une espèce d'agacement, j'ai une espèce de... C'est un peu indigeste, j'ai un peu, je sais pas, peut-être une boule dans la gorge. Alors, si j'ai une bonne relation à cet état intérieur, je vais pouvoir rester au plus près, rester dans la proximité, entrer en intimité avec moi-même et voilà, me détendre et puis me laisser toucher, me laisser peut-être glisser dans cet état intérieur ou le laisser monter et lui laisser... C'est un peu comme si je suis au bord de la rivière et que j'ai un deux pieds dans l'eau. Je suis au bord de la rivière, j'ai un doigt de pied dans l'eau, je ne peux pas vraiment faire connaissance avec ce qui se passe. Alors je peux rentrer dans la rivière. Je peux plonger dans la rivière. Je peux aller au milieu de la rivière, là où j'ai plus pied. Et là, je suis dans l'eau, et là, je peux sentir complètement immergé dans l'eau. Mais c'est quoi le goût de l'eau? C'est quoi la texture de l'eau? C'est quoi la force du courant? Vous voyez, là, j'arrive à être dans l'expérience. Alors une fois que ça c'est en place, on pourrait dire que je suis dans ce contexte de connaissance, d'accueil, d'acceptation, je suis prêt vraiment, je ne rentre pas en conflit avec moi-même sans arrêt, je ne me juge pas, je ne cherche pas à me débarrasser, je ne sais pas à chaque fois que je vis quelque chose, je devrais vivre autre chose, je suis prêt... à regarder ce qui se passe. À ce moment-là, il y a trois thèmes qui apparaissent. On pourrait dire ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le cœur, et ce qui se passe dans le corps, ou en tout cas ce qui se passe dans, au niveau de l'action. Il faut dire voir, ressentir, agir. L'observation des pensées, l'accueil du ressenti et tout le thème de l'action. Dans chaque situation, tout ça s'est impliqué. Dans chaque situation, et toutes les situations de la vie quotidienne sont un support pour se connaître, dans chaque situation de la vie quotidienne, il y a quelque chose qui se passe dans la tête, quelque chose qui se passe dans le cœur et quelque chose qui se passe au niveau de l'action. Ce qui se passe au niveau de l'action, c'est que je peux être, par exemple, complètement pétrifié, complètement inhibé, ou au contraire hyper réactif. Ce qui se passe dans la tête, ça peut être grande clarté de vision, ou alors au contraire une énorme confusion mentale. Au niveau du cœur, ça peut être limpide, puissant, vivant, ou alors au contraire torturé, noué. Au niveau de l'action, je peux sentir que je suis tout à fait capable d'accomplir l'action juste, ou alors au contraire je suis empêtré dans un réseau de réactions, j'arrive pas à faire autrement. Je voulais vous donner peut-être un des exemples et en même temps comment, dans chacun de ces domaines-là, voir ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe au niveau de l'action, voir, ressentir, agir, comment est-ce que je peux, une fois que si je fais connaissance avec ce qui se passe, comment est-ce que je peux faire un pas, progresser, utiliser la situation pour faire du neuf. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Alors pour l'action, je cherchais tout à l'heure dans le train si j'avais des exemples concrets, enfin, ça ne manque pas. Donc, il y a quelques années de ça, là c'est plutôt quelque chose qui va concerner l'action. Faire du neuf. Le thème principal par rapport à l'action, c'est faire du neuf. Beaucoup mieux faire du neuf que de faire quelque chose de parfait, de faire quelque chose qui serait spirituellement très très noble. Faire du neuf par rapport à l'enchaînement répétitif. C'est ça qui est douloureux, c'est qu'à cause de mes conditionnements, de mes peurs, ben finalement les situations sont là, et puis je retombe, ça se passe toujours un peu de la même façon. Donc je reçois un jeune homme en entretien, il me dit, j'ai vu un psychiatre, il m'a dit que je faisais de la phobie sociale. Alors, j'avais jamais entendu cette expression. Et pour moi la phobie, c'était la phobie des araignées, ou la phobie des ascenseurs, il y a encore la phobie de l'avion aussi. C'est un truc très puissant et paralysant. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui a la phobie des araignées, si dans une pièce il voit une araignée, c'est tout juste, il peut difficilement rester dans la pièce. Quelqu'un qui a la phobie des ascenseurs, il ne peut pas prendre l'ascenseur. Donc il a intérêt à ne pas habiter dans une tour de 18 étages. Mais bon, une araignée, un ascenseur, on peut l'éviter. Et si on fait de la phobie sociale, si dès qu'il y a du social, je ne peux pas rester là. C'est quand même compliqué à vivre. Donc, bon, je discute avec lui, je lui dis, mais comment ça se passe? Alors, on fait connaissance. Il me dit ça. Alors, je dis, ça se passe comment? Concrètement. On est d'accord, c'est voilà, on part de ce qui est. À Hauteville, là, l'ashram, le centre spirituel dans lequel je travaille, que je dirige d'ailleurs, on reçoit des gens, c'est là où je l'ai vu. Donc, c'est un très beau lieu. Qui est plutôt un lieu de retraite, un lieu où on peut rester dans le silence, la solitude, qui est propice au calme, au recueillement, c'est assez beau. Mais il y a aussi, afin d'équilibrer la journée, des lieux où on peut, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, des lieux où on peut se retrouver en fin d'après-midi ou après le dîner pour rencontrer les autres personnes en séjour, qui sont plutôt des lieux de convivialité. Donc il y a un lieu auquel on a donné le nom de pièce orientale, parce que pour faire chaleureux, on a mis des tapis marocains au sol et des tables, vous voyez, des tables avec des carrelages là, puis il y a de la tisane, enfin bon, ça c'est sympa. Donc j'ai dit, en rentrant dans le concret, on fait connaissance, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comment ça se passe à la pièce orientale? Il me dit... Ben, je reste dans mon coin parce que je pense que je ne suis pas intéressant et que j'ai rien à dire. Voilà quelque chose de très... c'est le point de départ. Ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans la haute expérience spirituelle. Là, ce qui me semble là, dans cet échantillon, c'est que si on veut faire du neuf, il va falloir agir. Au niveau du ressenti, il peut ressentir qu'il est tout seul, parce que ça va améliorer les choses. Au niveau de ce qui se passe dans sa tête, c'est assez clair. Donc, et puis il est paralysé, il est bien bloqué. Donc voilà, action, ce que je lui suggère. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On prend appui, l'idée c'est prendre appui sur ce que je suis. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, et donc je répète, il me dit, je reste dans mon coin parce que je pense que je ne suis pas intéressant et que j'ai rien à dire. Je lui dis, mais écoute, ce soir, tu te mets dans un box, au lieu de rester dans ton coin, tu vas avec les autres, dans un groupe où il y a quelques personnes, et tu dis ça. Tu dis, je me mets avec vous là, mais je pense... que je suis pas intéressant et que j'ai rien à dire. Tu dis ça. Action. Une action simple, concrète, possible, et qui ne lui demande pas d'être autre chose que ce qu'il est. Vous voyez les conditions? Je prends appui, ça ne lui demande pas d'être autre chose que ce qu'il est. Au contraire. Ça lui demande de se réconcilier avec ce qu'il est. Puisque c'est ça ma vérité, c'est ça que je mets en avant. C'est comme ça que je vais vers les autres. Ce qui me fait blocage, ce qui me fait blocage va me servir de point d'appui. Ce qui me fait blocage. Ça, c'est aussi un grand principe que j'aurais pu vous dire en introduction. On fait connaissance avec l'obstacle, pas avec ce qui est sublime, avec l'obstacle, justement ce qui fait que c'est loin d'être sublime. Je fais connaissance avec l'obstacle de façon à ce que l'obstacle devienne un point d'appui. Donc j'ai pas besoin d'aller ailleurs que là où je suis. Donc j'ai dit, ce soir tu vas à la pièce orientale et tu te mets avec les autres et tu dis voilà, je suis avec vous, mais je pense que je dis rien parce que je pense que je suis pas intéressant et que j'ai rien à dire. Un petit pas. Alors ça c'était un mardi, je le revois le jeudi, je lui dis, tu l'as fait. Il me dit, je l'ai fait 5 fois. Pas mal. Je dis, et alors, t'as dit ça? Ouais. Et donc, à chaque fois, toutes les personnes à qui j'ai dit ça m'ont dit, moi aussi. Donc apparemment, c'est quelque chose d'assez répandu. Et il me dit, alors j'ai commencé comme ça, quelqu'un m'a dit, moi aussi et tout. Et puis après, il me dit, on a commencé à discuter. Et là, je trouve l'histoire assez touchante. On a commencé à discuter et après, la personne m'a remercié en me disant, c'est la conversation, depuis que je viens à Hauteville, c'est la conversation la plus intéressante que j'ai eue à la pièce orientale. Donc ça, je trouve ça génial comme enseignement. Il pense qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'a rien à dire. C'est avec quoi il n'était pas content du tout d'être comme ça. Donc au début, sa demande dans l'entretien, c'était pas, c'était donne-moi un truc pour être intéressant. Donne-moi un truc pour être autre chose que ce que je suis. Il prend appui, c'est les portes de l'enfer pour lui. Je ne suis pas intéressant, j'ai rien à dire. C'est les portes de l'enfer qui matérialisent sa phobie sociale et qui le condamnent à rester tout seul dans son coin. S'il est complètement d'accord pour être comme ça et qu'il s'en sert comme point d'appui, il provoque la discussion la plus intéressante. Les portes de l'enfer deviennent les portes du paradis. Au même endroit. Il y a vraiment quelque chose dans le chemin, dans la voie, là. Possibilité. On parle de la transfiguration là dans le christianisme. Mais il y a vraiment une possibilité quand on, au lieu d'être en conflit avec ce qui se passe, on est vraiment en accord. Vous voyez ce que je veux dire? On prend au lieu de chercher quelque chose à côté là, on va vraiment au cœur de ce qui se passe. Il y a vraiment une possibilité de transformation plus ou moins rapide. Finalement, il a vécu quelque chose. Alors, le chemin continue, hein. Ça n'a pas tout résolu de tous ses problèmes. Mais bon, au moins, il a vécu une expérience immédiatement, nouvelle, et qui se doit à lui-même, en fait. Sans prendre de drogue, sans que ça soit la bénédiction d'un grand maître spirituel. Alors ça c'est agir. Alors il y a un autre thème, j'ai dit oui, voir, ressentir, agir. Le voir, ça consiste dans notre vocabulaire, c'est vraiment, ça s'oppose à, on oppose voir et penser, c'est une question de, c'est un choix de mots, hein. Vous pouvez trouver d'autres oppositions. C'est voir, ça serait tout le fonctionnement pertinent du cerveau, quand on produit du vrai, si vous voulez. Et puis penser, c'est à chaque fois tout le dysfonctionnement du cerveau. Parce que vous savez que notre cerveau, notre intelligence, notre capacité à réfléchir, peut produire le meilleur et produire le pire. C'est le cerveau produit de la compréhension, de la connaissance,
du discernement, de la lucidité, de la possibilité de rapprocher, de vraiment de comprendre. Mais le cerveau produit aussi de l'illusion, de l'idéologie, de l'opinion, du jugement, la négativité, la toxicité, fabrique du faux en permanence. Et de mon expérience, et par rapport aux gens qui s'intéressent au chemin spirituel, les gens qui s'intéressent au chemin spirituel, il y a quelques points. Alors il y a vraiment dans le monde des gens qui peuvent avoir de graves dysfonctionnements, qui peuvent être très égoïstes, ou qui sont. Mais les gens qui s'intéressent au chemin spirituel, je dirais il y a une présélection. Donc dans l'ensemble, ce sont des gens qui ont bon cœur, qui se remettent en cause, qui sont quand même capables de prendre soin des autres, qui ont une forme d'honnêteté. Qui considèrent que la difficulté, c'est en eux, que c'est pas la faute des autres, que c'est pas la faute du monde. Donc, voilà, je ne peux pas dire... dans les monstruosités du cerveau, il y a des grandes idéologies comme le nazisme, des choses comme ça, des formes de presque de la haine organisée et systématisée. C'est pas ça mon pain quotidien. Pour moi, mon pain quotidien, je dirais, c'est la dévalorisation. C'est toutes les croyances, ce avec quoi on lutte, quoi. C'est toutes les croyances du style « je suis pas à la hauteur », comme l'autre, là, « je suis pas intéressant, j'ai rien à dire »,« je suis pas à la hauteur », »,« je suis pas aimable », »,« je suis pas capable », »,« je suis nul ». Alors, deux fois, ça m'est arrivé, des personnes qui me disent... Pour combiner, qui essaye de concilier la bienveillance et l'acceptation de soi avec cette dévalorisation, sans trop la remettre en cause, qui dit « Ah ouais, j'ai une vision, j'ai une percée là, j'ai compris qu'il faut s'accepter tel qu'on est, donc j'accepte que je suis nul. » Je dis « C'est pas tout à fait ça l'acceptation de soi. » Donc je suis nul, alors, une fois, j'ai fait un séminaire une fois à Clermont-Ferrand, il y a une femme qui dit « Je suis une sous-merde. » Alors, elle fait son effet. Une heure après, il y a une autre femme qui dit « Je suis une sous-crotte de bique. » Elle a fait plus d'effet. La première, j'ai regardé la première, j'ai vu verdir. Genre, je ne suis plus celle qui se déteste le plus. Récemment, là, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi à Audi, là, je suis une chure de mouche. Ça peut être très, très, très brutal, quoi. Très brutal. Alors là, parfois, il faut la voir, c'est voir la fausseté de ses jugements, et parfois, c'est pas évident. Donc, j'ai une femme, une fois, en groupe, c'est dans une entreprise. Vous voyez, dans une entreprise, je ne sais pas si vous connaissez ce vocabulaire, il y a N, N plus 1, N plus 2, ou N, N moins 1, N moins 2. Donc, le directeur, le sous-directeur, voilà, donc il y a des promotions... des services. Donc elle était dans un service entre pairs avec les collègues de son service, et puis il y a le directeur, donc elle, on va dire, c'est le rang N, N plus 1, c'est celui qui était le responsable de ce service, s'en va. Et le patron de la boîte, donc N plus 2, lui propose de le remplacer. Une promotion, si vous voulez. Mais au lieu d'être entre pairs, elle reste dans la même entreprise. Elle était entre pairs avec ses collègues, et maintenant, elle devient devenir le chef de ses collègues. Et elle me dit, mais elle nous dit, mais vraiment, comme si c'était un truc aussi objectif, comme si quelqu'un disait, comme si je vous disais, je suis français, je suis un homme, je mesure 1m80, je m'appelle Emmanuel et je suis nul. Comme si c'était un fait aussi objectif, vous voyez, aussi indiscutable. Elle me dit, cette promotion m'intéresse. Elle nous dit, cette promotion me fait envie, mais je ne vais pas la prendre parce que je ne serai pas à la hauteur. Et elle n'en démordait pas. Elle n'en démordait pas. Je ne serais pas à la hauteur. Alors, on discute. Ton patron, il est pas celui qui s'en va. Celui qui reste et qui lui propose de prendre la... qui lui offre la proposition. Je lui dis, est-ce que ton patron, il est compétent? Il est bien? Il sent les êtres humains? Il me dit, oui. Et donc, il te le propose. Ouais. Donc, lui, il estime que tu es à la hauteur. Ouais. C'est déjà... elle n'avait pas envie de dire oui. Elle dit oui, mais ça ne fait pas changer d'avis. Il peut se tromper, il ne sait pas. Tes collègues. Parce que ça peut être difficile pour les collègues de voir un collègue. C'était ton collègue, et puis maintenant, c'est ton chef. Tes collègues. Ah, mes collègues, ils me disent tous, fais-le. Ah, ils sont tous cons. Non. Mais quand même. Après, lui, celui que tu pars là, celui qui part, que tu vas remplacer, il était bon. Non, il était complètement nul. Donc tu vas faire au moins aussi bien que lui. Ben, de toute façon, je fais déjà tout ce qu'il fait. Comme il faisait pas son boulot, c'est déjà moi qui fais tout ce qu'il fait. Et ça part bien. Il dit ouais. Donc, son patron la veut. Tous ses collègues la soutiennent. Elle fait déjà le boulot. Celui qu'elle va remplacer est nul. Et elle ne va pas prendre la promotion parce qu'elle ne sera pas à la hauteur. C'est fou. Alors, un dernier argument. Oui, mais lui, il a un diplôme. Et moi, j'en ai pas. Elle me dit, merde, tout le travail qu'on a fait pour arriver là va être invalidé parce que l'autre, il avait un diplôme et pas elle. Mais je lui dis, mais tu vois bien que le diplôme, on s'en fout, puisque lui, il a le diplôme, il n'est pas bon. Et t'as pas le diplôme et tu le fais déjà bien. Et là, il y a eu un moment très très intense. C'est quand même dingue hein, comme situation et comme dialogue. Un moment très très intense où elle était en état de crise en fait. En état de crise parce que elle était obligée de prendre conscience, de voir que c'est absurde, qu'elle serait à la hauteur, qu'elle est à la hauteur. Évidemment, et là, il y a quelque chose qui peut s'effondrer, en fait, de notre prison. Ah, j'ai un autre exemple, du genre de pratique. Je connais quelqu'un, enfin j'ai reçu quelqu'un en entretien, lui son truc, c'est d'avoir l'impression que tout le monde veut le rouler. Ah, il peut être pénible, hein. Ah bon, il avait déjà un peu bossé sur lui, donc il était sympa, il était fair play. On en avait déjà parlé. Il commençait à comprendre que c'était lui. Parce qu'au début, il était très fier. Hein. Un truc comme ça, moi j'ai une qualité, on peut pas me rouler, quoi. Et puis c'est pratique. Alors, mais c'est le genre, tous les artisans, il fait faire 5 devis, il vérifie tous les devis, il discute avec chaque point avec les artisans, il fait jamais confiance. A priori, tout artisan qui lui fait un devis a gonflé le devis pour l'escroquer. Et une fois, alors il vérifie 50 devis, il vérifie 50. Une fois, il en trouve un où il y a quelque chose qui n'était pas en ordre, ça justifie que sa méfiance sur les 49 qui était parfaitement... Puis bon, après, ça commence à coincer parce qu'il est entouré d'artisans qui travaillent plusieurs fois, avec qui il a travaillé plusieurs fois, qui sont honnêtes. Mais il est méfiant, donc il les blesse. Donc, quand un artisan est blessé, ben, il a moins envie de travailler correctement. Enfin bon, c'est... En fait, il vit dans l'idée de ne pas se faire rouler et il va provoquer une situation où les artisans vont être fâchés contre lui et il ne trouvera plus un qui va bosser pour lui. Si ce n'est un jour peut-être qu'il le roulera uniquement pour lui faire payer toute sa méfiance. Donc il va chez le notaire avec sa femme et il me raconte ça, donc il a été fair play. Hein. Il va chez le notaire avec sa femme pour le notaire de famille, il avait déjà eu affaire pour 2-3 chez une acquisition de maison... Et je ne me souviens plus pourquoi, il va chez le notaire pour avoir des renseignements sur peu près pareil. Donc le notaire, il prend une feuille, là, comme ça, une feuille blanche, et puis il commence à noter, ben, vous avez une possibilité, c'est ça, une autre, c'est ça, une autre, c'est ça. Ça dure 5 minutes, la discussion, 10 minutes. Puis le notaire dit, bon, ouais, je vais vous faire une photocopie. Puis je vous la donne, et puis voilà. Vous l'emporterez chez vous. Et le notaire part faire la photocopie, puis une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes, il ne revient pas. Pour faire une photocopie. Donc c'est un peu bizarre. Il y a un truc un peu incompréhensible, et quand on est face à un truc incompréhensible, ce qui se passe, c'est que c'est notre interprétation favorite qui vient combler le vide. Donc, il réfléchit, et là, il a cette trouvaille quand même spectaculaire. Il dit à sa femme, puis il l'a dit à voix haute, donc c'est bien. Il dit à sa femme, je suis sûr qu'il est en train de traîner, parce qu'il a fait la photocopie, ça l'est fait depuis longtemps. Il est en train de traîner, il parle avec sa secrétaire ou je ne sais pas quoi, il fait autre chose. Il est en train de traîner parce que sinon on ne serait pas resté assez longtemps pour qu'il puisse facturer quelque chose. Et là, il va réussir de façon complètement artificielle à faire en sorte qu'on va rester une demi-heure chez lui pour pouvoir nous facturer une demi-heure. Et là, il était content. Il commençait à avoir une jouissance intérieure du genre « ça y est, j'ai démasqué l'escroc ». Alors, et là, tu sais comment on est quand on est persuadé qu'on a raison, là, comme ça. Et donc, le notaire revient, il leur donne la feuille, hein, il attend son triomphe, et il dit, évidemment, vous pouvez deviner la suite, il dit au notaire « combien je vous dois ?» Et là, le notaire lui dit « ben, rien du tout ». Et là, c'est intéressant, quoi, parce que là, il y a vraiment un truc qui s'est écroulé de sa vision, quoi. Qu'il a vu que c'était pas du tout un truc objectif, quoi. C'était pas une connaissance de la réalité, mais que c'était vraiment une croyance systématique. Bon, voilà deux exemples. Alors après, j'ai un exemple. J'ai voir ressentir agir. Alors ressentir. Vous voyez, il y a des situations où ce qu'il faut, c'est passer à l'action. À la peine de faire de l'introspection, comme le gars tout à l'heure qui faisait de la phobie sociale. Bon, ce soir, je fais du neuf, je passe à l'action, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Il y a situation, c'est pas une question d'action ou de ressenti, il faut voir, c'est-à-dire voir là où on... la production mentale, quoi. Là, voir comment on s'enferme dans notre monde avec des certitudes qui sont tout à fait contestables. Là, c'est un exemple où la priorité, c'est ressentir. Donc, je reprends l'exemple du début où il y a cet homme qui est jaloux, là. Donc, alors, imaginez la situation, homme, femme, enfin, on peut tous... Si vous n'êtes pas propice à la... Si vous n'êtes pas... Moi, je n'ai pas tellement... C'est un exemple, parce que moi, ce n'est pas tellement un trait de caractère chez moi, la jalousie, mais enfin, on a tous des traits de caractère où on peut transposer ce que je vais vous dire... Donc je suis dans une soirée et je vois ma femme, ma compagne parler à un autre homme et je ressens un truc qui fait mal, quoi. Je suis jaloux, ça me déstabilise, je commence à être en colère, le gars, ma femme, je suis vraiment choqué. Tout ce monde intérieur, Othello. Si vous connaissez la pièce de Shakespeare. Alors, tout ce que j'ai dit depuis le début, voilà, c'est ce que je suis tel que je suis ici et maintenant. C'est mon cœur, c'est mon meilleur ami, cet homme jaloux, au lieu de le trouver ridicule, comme je fais d'habitude. Je ne fais pas comme si j'étais autre chose. C'est mon état intérieur du moment. J'essaye d'avoir une bonne relation avec cet état intérieur. Et je me tourne vers mon cœur et je dis, allez, Alors je sors de la soirée, je vais dehors, par exemple, pour être tranquille, je prends un quart d'heure. Et je ressens, j'essaie de descendre dans la profondeur. Vraiment, la jalousie, c'est vraiment le truc de surface. C'est la forme la plus superficielle. Derrière, il y a des choses beaucoup plus profondes. Donc, je vais éprouver une forme de désarroi, de solitude. Je sens, mais je suis plus centre du monde. C'est les plus... s'intéresse à quelqu'un d'autre, donc je sais pas, c'est vertigineux la sensation, mais on me voit pas, on me regarde pas, je suis détrôné, je descends encore plus profond, je sens une détresse. Alors là, je fais tout le processus comme si ça durait 5 minutes. Parfois, en vérité, ça prend quelques années d'arriver à faire ça. Mais mettons, admettons. Je sens une détresse. C'est la même chose, vous voyez, c'est toujours ce que je suis. Je ne suis pas autre chose que ce que je suis. Hein. Je ne vais pas ailleurs. Je ne vais pas dans quelque chose que je devrais être, qui serait admirable. Je ne bascule pas, je me coupe pas de ce sentiment, de cette émotion, en je ne sais pas quoi, en parlant d'amour. Je reste là où je suis. Que je trouve une sorte de détresse. Je vais encore plus profond. Alors, il y a peut-être des souvenirs qui vont remonter. On ne sait pas tout ce qui peut se passer. Mais ça devient très intense, en même temps très vivant. J'arrive vraiment à une espèce de blessure fondamentale. Que je manque d'amour. Tout ce drame de l'amour, en fait. Ce drame de l'amour, où on a besoin d'amour, on est mal aimé. Étant mal aimé, on n'arrive plus à aimer nous-mêmes. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus universel. Alors d'un coup, je sens, j'ai touché le fond, quoi. Je suis allé au plus profond de... Ça y est, j'y suis, quoi. Je suis vraiment... dans quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vais vraiment dans quelque chose de plus profond, je vais dans quelque chose qui est beaucoup moins égocentrique. Vous voyez, parce que par exemple, si je suis jaloux, tout le monde ne l'est pas. Bon, peut-être un autre, il va être très arrogant, un autre, il va être super timide, il perd tout le temps ses moyens. L'autre, il va être très dépressif. Mais quand j'arrive au cœur, quand j'arrive... C'est même plus tellement mon histoire à moi, vous voyez. C'est plutôt la condition humaine. Dans chaque cœur humain, il y a ce besoin d'amour, cette histoire, en fait, tragique, par laquelle on est tous passés, plus ou moins. J'ai besoin d'amour. L'amour qu'on m'a donné, il a vrillé. C'est pas exactement ce dont... Il a manqué un moment, ou beaucoup, ou un peu. C'est mieux, hein. Je pense à ce point. Là, le moins bien. Ceux qui sont en visio, là, si le son n'est pas bon. Un, deux. Un. Je vais être plus près alors. Un, deux. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tant mieux. Donc j'atteins ce stade où c'est même plus mon histoire personnelle. J'ai manqué d'amour, ça m'a fait mal, et j'ai du mal à aimer. Quand j'arrive à ce niveau-là, il y a une détente qui se produit. Alors, si vous l'avez vécu, vous pouvez le confirmer. Sinon, c'est une question d'expérience, c'est vérifiable. Si jamais vous faites quelque chose, un travail comme ça, vous descendez en vous-même à ce niveau de profondeur, je vous assure, il y a une détente qui se produit, une réunification, un apaisement, une guérison, et tout d'un coup, une ouverture sur les autres. Au début, je suis dans ma jalousie, je suis fermé sur moi, vous voyez ? C'est moi, c'est petit, là il y a une ouverture sur les autres, un sentiment de solidarité. Moi je suis comme ça, tous les êtres humains sont comme ça. Tous les êtres humains. Et j'ai aucun. Et là il y a un sentiment de fraternité, de compassion, de proximité, qu'il n'y a pas du tout à fabriquer. Pas un truc où je sais pas quoi. Jésus a dit qu'il faut s'aimer, qu'il ne faut pas être égoïste. Alors j'essaye, mais en fait là, ça sort tout seul. Ça émane tout seul. Je tourne vers l'extérieur et un sentiment de fraternité. Et je ne suis pas vraiment différent. Je suis le même. J'ai toujours cette blessure, en fait, mais apaisée. Cette blessure apaisée parce que je l'ai accueillie, parce que je l'ai goûtée, parce que j'ai été tendre avec moi-même. Comme si j'ai un ami qui arrive et puis qu'il est... et que j'ai dit, bah, écoute, allez, je te viens, et puis qu'il pleure un bon coup dans mes bras, il va s'apaiser. Hein. Pas sorcier. J'ai un sentiment de solidarité qui m'ouvre sur les autres. Ça, je suis détendu, je suis apaisé, je peux regarder les autres. Je peux même regarder ma compagne, ma femme, et l'homme avec qui elle discute, et sentir eux aussi. Eux aussi. C'est pareil. Il y a l'amour, la blessure, et puis le besoin d'amour, et la difficulté à aimer, et comment on se protège, et comment on fait ça, et comment chacun se débrouille comme il peut avec cette histoire. Les manifestations de surface sont très différentes. Il y en a un qui va devenir très arrogant, un autre qui va devenir très timide. C'est des manifestations de surface de la même histoire. Donc je pars de ma... Cette dimension de ressentir est très importante, évidemment, sur la voie, parce que c'est là qu'est la clé, c'est dans le cœur qu'est la possibilité de l'amour et de la joie. Donc je descends dans mon cœur sans jamais me demander, c'est pas que je me demande d'être autre chose que ce que je suis, c'est que je me demande vraiment de goûter, de faire l'expérience. C'est quoi l'expérience, je disais tout à l'heure. L'expérience qu'on me propose, là, ça commence par la jalousie, mais si je rentre dedans, ça devient une expérience beaucoup plus profonde, de détresse, et puis après de blessure, et après de compassion. À commencer par moi, de compassion pour moi, et puis pour les autres. Finalement, d'une certaine façon, ce qui nous éloigne, les uns des autres, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'aimer les uns les autres, ou que l'amour est très difficile, c'est qu'on reste à la surface. Je suis à la surface de moi-même et je bute sur la surface des autres. Bon, ben je crois que c'est... Jusqu'à quelle heure on a ? C'est pas mal, là, hein ? Comment ?
Temps d'échange.
Oui ? Bon, voilà, là, donc, vous avez... J'ai essayé de vous donner un aperçu ou un avant-goût. Si vous voulez poser quelques questions, oui ? Vous allez y arriver. Un peu de patience.
Oui, en fait, moi je me pose la question de tout ce cheminement spirituel, la différence avec une psychothérapie. Parce qu'en psychothérapie, on va aussi chercher nos failles, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pour justement essayer de s'ouvrir aux autres.
Oui, je comprends que vous posiez la question. Ah, il y a une question d'intention. De jusqu'où on veut aller. Oui. Dans l'amour, dans la remise en cause de soi, dans le... Après, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est un peu artificiel de distinguer psychologie et spiritualité, parce qu'on pourrait dire le point de départ... Vous voyez, étymologiquement, psychologie, ça vient de logos et de psyché. Et si on traduisait littéralement, ça serait l'étude de l'âme. Et si vous voyez, du point de vue, surtout dans une voie de connaissance de soi, l'étude de l'âme est la clé pour accéder au niveau spirituel. Alors dans l'Antiquité et chez les premiers auteurs chrétiens, on distinguait trois niveaux, le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps, tout le monde voit ce que c'est. L'âme, ça reste on voit aussi ce que c'est. Enfin, en tout cas, l'âme, c'était la traduction du grec psyché, qui a donné aussi le psychisme. Donc l'âme, c'est là où il y a le cœur, c'est là où se joue, c'est très très beau l'âme, et en même temps c'est là où c'est à la fois, il y a des choses très très belles, il y a toute la condition humaine, si vous voulez, dans l'âme. Donc il y a des choses très très belles, comme l'amour, et puis il y a tout ce qui vrille. C'est dans l'âme c'est l'âme dans laquelle se forment tous les nœuds, si vous voulez. Et puis il y a le niveau spirituel. Donc c'est comme si le cœur humain, il avait... c'est pas très scientifique ce que je vais vous raconter, c'est comme ça que je me représente les choses maintenant. C'est comme si le cœur humain, il y avait une double couche, superposée l'une sur l'autre. Il y a un cœur psychique. Donc je parle de ce qui en nous est capable de ressentir, vous voyez. Il y a un cœur psychique, qui est la couche supérieure, et là, il y a tous les contrastes, c'est-à-dire il y a la joie et la peine, il y a l'amour et la haine, il y a la colère, il y a la blessure, il y a aussi l'aspiration à aimer. Et c'est très varié, des ressentis intenses. Alors, il y a des écoles de... Beaucoup d'écoles de psychothérapie distinguent quatre ressentis de base qui sont la joie, l'amour, la joie, la tristesse, la colère et la peur. La communication non violente, par exemple, c'est beaucoup fondé là-dessus. La joie, la tristesse, la colère et la peur. Donc le fait de passer de la joie à la tristesse et à la colère et à la peur, ça veut dire c'est le cœur psychique. Et en dessous du cœur psychique, et après il va falloir savoir comment ça fonctionne. Le lien entre les deux, et souvent, si le cœur psychique est trop nué, ça ne me donne pas accès au cœur spirituel. Et le cœur spirituel, lui, il fonctionne différemment. Lui, dans le cœur spirituel, il ressent des sentiments stables qui n'ont pas de contraire. Vous voyez, il y a l'amour qui a un contraire. C'est-à-dire, si j'aime quelqu'un, après je ne l'aime plus. Où il y a la paix qui a un contraire. Aujourd'hui, je suis en paix, puis demain, je suis plutôt en paix. Où il y a une gratitude qui a un contraire. C'est-à-dire, si quelqu'un me rend un service, ben, je suis plein de gratitude. Puis après, si la même personne me fait une vacherie, ma gratitude va se transformer en ressentiment. Le cœur spirituel, il est fait pour fonctionner avec des sentiments stables de paix, d'amour, de joie, de gratitude, qui n'ont pas de contraire. Et si le cœur psychique il est trop noué, on n'a plus accès au cœur spirituel. Et si le cœur psychique se détend, à ce moment-là, tout ce qu'on va ressentir au niveau psychique aura un arrière-plan spirituel. Je peux ressentir la joie, la peine, la colère, le déchirement de la séparation, sur fond de paix, d'amour, de joie, de détente, de tendresse, etc. Donc, l'idée, par rapport à ça, la question que vous posez, parce qu'il y a d'autres aspects, chemin, par rapport à ça, par rapport à la psychothérapie, c'est le plus possible, voilà, de travailler dans cette perspective. Je vais dénouer le cœur psychique pour libérer le cœur spirituel. Et puis il y a une autre chose aussi qu'on peut dire, un aspect fondamental de la... Une des idées fondamentales du chemin, c'est la remise en cause de l'ego. Vous avez déjà entendu parler de ça, la remise en cause de l'égocentrisme. En Inde, quand c'est l'état sans ego, le but, il y a cet égocentrisme qui ramène tout à soi. Donc, un aspect fondamental de l'égocentrisme, c'est de toujours saisir et refuser. Donc, quelque chose me convient, je le saisis, quelque chose ne me convient pas, je le refuse. C'est valable à l'extérieur, c'est valable par rapport à nos états intérieurs. Je suis heureux, je le saisis, je suis en colère, je le refuse. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de l'acceptation de ce qu'on est. Donc, j'ai un état intérieur, il ne me plaît pas, je le refuse, ça c'est le fonctionnement mécanique, ordinaire si vous voulez. Mais si je sors de ça, mon état intérieur c'est ce qui est, et peu importe qu'il me convienne ou qu'il ne me convienne pas, tel qu'il est, je l'accepte. D'où ça émane ça, si vous voulez? Il y a quelque chose qui émane du psychisme, qui est la matière de la psychothérapie, par exemple cette crise de jalousie, mais il y a ce geste de l'acceptation, c'est parce que c'est pas que je suis jaloux, c'est pas que ça me convient ou ça me convient pas, c'est ce que je suis, et je l'accepte. Et cette acceptation de ce que je suis, elle vient pas de ce qui est en moi, est toujours là à distinguer ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Donc d'une certaine façon, c'est une expérience spirituelle. Vous voyez, il y a une manifestation de l'ego, mais la relation que j'ai à cette manifestation de l'ego, elle n'est pas égocentrique. C'est une capitulation, c'est une reconnaissance de la vérité. Alors, à partir de là, il peut se passer beaucoup de choses. Vous voyez, ça verticalise finalement ce qui va... Après, la psychothérapie, c'est un magnifique travail. Parfois, il y a des choses qui se passent dans un cabinet de psy qui sont magnifiques. On pourrait dire aussi que la psychothérapie, ça s'est séparé, mais qu'à l'origine, c'est une partie du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un grand maître spirituel. Même dans l'Antiquité, je suppose que les grands maîtres spirituels étaient aussi des grands psychologues. Ce qui va faire le chemin, c'est la façon dont on va, jusqu'à quel point on va arriver à verticaliser ce qui se passe dans l'instant présent en étant complètement d'accord avec l'instant présent. Par exemple, si j'ai une émotion que je peux, mais quelqu'un il peut aller voir un psy en disant je suis très jaloux de ma femme, ou me venir à Hauteville, enfin, et puis avoir un entretien ou je sais pas quoi, et commencer avec la même chose, je suis très jaloux de ma femme. La question, c'est à partir de ce point de départ, jusqu'où on va verticaliser. On commence avec ça, et quelle relation. Parfois, moi je peux vous assurer, quand il y a un truc comme ça par rapport à la vérité du cœur humain, si on arrive très profond, il y a une sacralisation de l'espace. Quelque chose comme ça, il y a une réunification dans la vérité. Ça s'assure tout d'un coup. On est parti de quelque chose de très très lourd, de difficile. On arrive on est dans un temple, hein, dans un sanctuaire. Il y a quelque chose de vertical. Bon, c'est pas tellement mon vocabulaire, mais si vous voulez, on pourrait dire Dieu est dans la pièce, hein.
Oui, pour atteindre le niveau de détente dont vous parliez tout à l'heure, c'est la replongée, elle est dans les la profondeur. Et est-ce qu'il faut, ça rejoint un petit peu la question de ma voisine, est-ce qu'il ne faut pas quand même passer par un dialogue, l'échange avec quelqu'un, pas toujours le psy, mais quelqu'un au moins. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut arriver à contact, enfin.
Vous prêchez.
Pour ma part, c'est le cas. J'ai besoin de l'autre pour.
Vous prêchez, comme on dit, vous prêchez un converti. Parce que si vous voulez, en théorie, il y a beaucoup de choses dont je vous parle qu'on peut faire seul. Mais c'est plus facile de le faire quand on est accompagné. Et moi, ma conviction profonde, c'est que c'est difficile, voire impossible, de cheminer tout seul. C'est pour ça que c'est la raison d'être de mon existence ou de mon activité sociale aujourd'hui. Si je dirige ce lieu, Hauteville, c'est pour accueillir des gens pour qu'ils arrêtent de cheminer tout seuls. Et je disais tout à l'heure, voir, ressentir, agir, pour voir, c'est plus facile quand on est entouré de personnes, parce qu'on voit mieux quand on n'est pas dedans. Vous voyez, Jésus, il dit, on voit la paille qui est dans l'œil du voisin. Hypocrite, tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Donc, moi, ma première compréhension de cette parole, c'est que je me dis, il ne faut pas faire la leçon aux autres parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Vous voyez? Mais en fait, c'est plus précis que ça. On peut même aller vraiment à des degrés de précision. Donc il dit quand même, il dit, tu vois la paille qui est dans l'œil du voisin. Donc la paille est liée. Et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Donc ça ne veut pas dire je fais la leçon aux autres, mais arrête de faire la leçon parce que tu n'es pas mieux qu'eux. Ça veut dire, c'est plus psychologique que moral. C'est-à-dire, tu vois quelque chose de très fin. On voit chez l'autre des choses très fines et des choses énormes, on ne les voit pas chez soi. Mais quand même, on voit des choses très fines chez l'autre. Donc, quand on est en groupe, donc quand quelqu'un me dit « Regarde Emmanuel, t'es comme ça », qui me montre la paille qui est dans mon œil, « Emmanuel, t'as une paille dans l'œil », j'ai deux réactions possibles. Je pourrais lui dire « Écoute, regarde la poutre qui est dans le tien et fous-moi la paix ». Où j'ai une autre réaction qui est possible, c'est de se dire, il a une grosse poutre dans l'œil, ça c'est son problème, mais il a vu la paille qui était dans mon œil, et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est par rapport à voir et agir, et puis par rapport à ressentir, c'est vrai que parfois, descendre dans son propre cœur, là où il y a des blessures, c'est pas évident, quoi. Parce qu'on a pris l'habitude justement de ne pas y aller. On a pris la décision même de ne plus jamais y aller, là où ça fait très très mal. Donc d'avoir quelqu'un, alors on peut y aller tout seul, mais d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce parcours, donc qui a déjà été accompagné, qui n'a pas peur des émotions, qui n'a pas peur des blessures, etc., qui te prend la main, qui est une main chaleureuse, sécurisante, aimante, à la fois ferme et douce, vous voyez, te prend la main et qui te dit « Je vais descendre avec toi, t'inquiète pas, je suis là, je vais descendre avec toi », et c'est sûr que ça facilite énormément. C'est même... Alors, c'est bien d'être accompagné, et puis ça aide, et puis après, de devenir autonome. C'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. On devient de plus en plus... On fait les gestes, les exercices, les gestes accompagnés, on nous les montre, on nous les indique, je veux dire, ceux qui sont passés par là, enfin, il y a de l'entraide. Et puis après, on devient autonome. voyez, moi j'ai fait beaucoup de groupes. Moi, quand j'avais 30 ans, 28 ans, c'était vraiment très fort chez moi. Il faut montrer une bonne image de soi, quoi. Puis dans des groupes, j'ai vu des gens parler de leurs faiblesses avec honnêteté, avec simplicité, avouer qu'ils avaient, je sais pas, reconnaître qu'ils avaient en eux des choses que j'aurais jamais voulu voir en moi, reconnaître, et encore moins partager. Et à force de voir d'autres le faire, et qu'ils n'en meurent pas, et que même c'est intéressant, ou même je me dis, tiens, c'est chouette, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Et c'est la dimension de l'entraide, de l'émulation. C'est comme, et puis même si on est pas cheminé, même si on est doué, plus ou moins doué, ça change pas. Si je prends des gens, les grands tennismans là, comme Nadal, enfin je connais plutôt les noms des hommes, Nadal, Djokovic, etc., Federer, je suis sûr que des tennismans de ce niveau là. On leur mettait une raquette dans la main à l'âge de 10 ans et puis ils ne prenaient pas de cours, ils auraient progressé. Ils avaient certainement le sens du tennis en eux. Hein. Je suis sûr que Federer, sans aucun cours, il aurait atteint un niveau, il aurait été balèze en tennis. Il est quand même allé voir un entraîneur. Autre chose ? Ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Je vous admire parce que vous avez une qualité d'écoute et de patience.
À travers ce que vous dites, on voit que c'est un chemin qui fait appel à beaucoup de douceur envers soi-même. Est-ce qu'il y a des moments aussi où il faut savoir être un peu dur avec soi ?
Alors, dur peut-être pas, mais ferme. Il y a toujours un équilibre à trouver, en fait. Donc, alors, j'ai pas pu parler de tout, mais vous faites bien de poser la question. Donc, il y a l'équilibre entre toute la dimension de la bienveillance envers soi-même. Donc de s'accepter tel qu'on est, d'être doux avec soi-même, de se pardonner, de ne pas s'accabler de reproches, d'être patient, d'être chaleureux, réconfortant. Il y a toute cette dimension. Et puis de pas s'imposer, de pas forcément besoin d'être ascétique ou je sais pas quoi dans l'héroïsme. Donc il y a toute cette dimension et ça c'est un aspect. Et puis il y a une dimension complémentaire qui est celle de l'effort, de l'autodiscipline, de la fermeté, de savoir se remettre en cause, de la non-complaisance, de se donner un petit coup de pied au cul. Donc il y a ces deux dimensions équilibrées. S'il y a trop de bienveillance envers soi-même, alors à un moment, il y a le centre en France, là, puis il y a un autre centre spirituel au Québec qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Eric Edelman. Et un jour, Eric est venu me voir et me dit « Ah là là, c'est l'épidémie de bienveillance envers soi-même, j'en peux plus, là. Ça devient la folie. » Alors, il me dit « J'ai dîné chez quelqu'un, et le téléphone sonne, et la personne ne bouge pas, et je lui dis « Mais tu vas pas répondre ?» Il me dit, je le sens pas, là, je m'écoute. Je sens pas d'aller répondre. Donc là, il y a la bienveillance envers l'écoute de soi. Oui, alors là, j'écoute mon rythme. Hein. Je sens pas d'aller répondre. Donc il y a la dimension. C'est comme il y a le livre de Fabrice Midal qui s'appelle Foutez-vous la paix, là. Vous avez entendu parler de ça, là, de ce titre ? Ah, moi, ouais, je me dis. La première chose que je me suis dit, c'est putain, c'est un génie. Un génie du titre, quoi. Alors moi, j'ai toujours du mal à trouver le titre, mais là, je me dis, il appelle son bouquin « Foutez-vous la paix », il en vend 400 000, quoi. Il passe de 5000 lecteurs à 100 000 lecteurs d'un seul coup. Foutez-vous la paix. Mais j'ai plutôt un a priori positif. Puis comme je vois beaucoup de gens qui se martyrisent, je peux comprendre. Mais il y a plusieurs personnes autour de moi qui se sont dit, enfin, bon, c'est pas que ça la voie quand même, de se foutre la paix. C'est pas que ça, hein. C'est pas juste se foutre la paix. Hein. C'est exigeant. C'est exigeant. Il y a quand même une dimension d'effort, d'autodiscipline, de persévérance, d'héroïsme. Mais il faut équilibrer, parce que s'il n'y a pas cette bienveillance, alors toute la dimension d'effort, voire d'héroïsme, ça peut devenir aussi d'une dureté, d'un idéalisme, et puis qui conduit à la toute-puissance. Vous voyez, à l'idéalisme, le maître d'Arnaud, enfin, le maître de mon père, celui par exemple de Pâtre, il a eu une période où il n'y avait aucune douceur envers lui-même. Il était idéaliste, et c'est un terroriste, hein. Après, il appelait ça sa période de folie. Mais ça a été dingue, hein, la dureté qu'il a eue envers lui-même. Il avait épousé une femme qui était beaucoup plus jeune. Il a été d'une dureté avec elle. Et c'était terrible, quoi. Parce que l'esprit veut et le corps suit. D'ailleurs, il a été tellement idéaliste qu'il s'est autodétruit, quoi. Je veux dire, il a eu des séquelles après. Et puis en Inde, ils sont extrêmes, hein. Au niveau ascétisme. Donc il a eu les séquelles. Après, il a appelé ça sa période de folie, et puis il a dit la nature est inexorable. Si on transgresse ses lois, c'est implacable. La sanction, elle est implacable. Vous avez entendu, j'ai fait le con pendant 5 ans, à penser que le corps, l'esprit veut, le corps suit, et maintenant, pendant 50 ans, je paye, quoi. Donc il faut équilibrer la douceur et la fermeté. La bienveillance envers soi-même et l'exigence. Arnaud disait aussi le rôle de la voix, c'est nourrir et faire grandir. Nourrir, c'est toute la dimension justement de l'amour. Quelqu'un a besoin de reconnaissance, on lui en donne. Et faire grandir, c'est remettre en cause, etc. Alors on peut dire nourrir, quelqu'un tombe, je me précipite et je le relève. Surtout s'il est un peu handicapé, vous voyez, il n'a pas beaucoup d'équilibre, il n'est pas très doué. Il tombe, je me précipite, je le relève. Faire grandir, il tombe, je le laisse au sol, et il se démerde pour se relever. Même s'il reste 4 heures au sol, je le laisse, parce qu'il faut qu'il trouve les ressources pour se relever. Donc si quand quelqu'un tombe, jamais je vais l'aider à se relever. J'induis chez lui que le monde est dur, qu'il faut se débrouiller tout seul, qu'on peut compter sur personne. Puis il ne va pas arriver à se relever, il va souffrir. Donc si je vais le relever, je lui dis que le monde est généreux, que le monde est soutenant, que le monde qui peut compter, etc. Mais si à chaque fois qu'il tombe, je le relève, il ne va jamais apprendre à se relever tout seul. Oui, il faut équilibrer les deux. Et alors après, ce qui est difficile, c'est quand ? Combien de temps ? Où est-ce qu'il faut être bienveillant ? Où est-ce qu'il faut être ferme ? En tout cas, il y a un truc que je peux vous dire, qui est très simple, une formule qui est très très simple, et qui est assez valable, c'est fermeté envers les pensées, bienveillance envers le ressenti. À la limite, si vous devez retenir qu'une chose, c'est ça. Ce qui se passe dans le cœur, bienveillance. Tout ce que la tête raconte comme connerie, fermeté. Ok ? Merci d'avoir posé la question.
Une dernière. Voilà. C'est un peu fort. Est-ce qu'une mauvaise relation avec ses états intérieurs est synonyme d'une vie superficielle ?
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, là ? Pourquoi vous demandez ça ?
Vous avez parlé de la relation.
Oui, mais vous avez. Oui ? Vous voulez en dire un peu plus, non ?
Eh bien, si on a une mauvaise relation avec ses états intérieurs, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec.
Ça dépend, parce que.
La recherche de soi.
C'est peut-être un petit peu. trop abrupte là comme façon de s'exprimer. C'est vrai, d'une certaine façon, si on a une mauvaise relation avec soi-même, ça va faciliter le fait de rester à la surface. Et si on a une bonne relation avec soi-même, ça va faciliter le fait d'aller dans la profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Si... Comme je disais tout à l'heure, là, si quand quelqu'un frappe à ma porte, c'est un intrus, pour moi c'est un intrus, je ne l'aime pas. Voilà, c'est-à-dire que si c'est mon meilleur ami, je lui dis rentre, j'ai vraiment une bonne relation avec lui, je lui donne du temps, il va plus facilement descendre dans sa profondeur. Maintenant, c'est un peu caricatural parce qu'il y a... on est nombreux à ne pas avoir forcément une très bonne relation à soi-même. Et il y a quand même des gens qui sont... Il y a quand même, finalement, des gens qui sont quand même... Il y a quand même une certaine profondeur. Vous voyez, il y a quand même des moments, on aime, on souffre, on vit les choses. C'est pas si... Et parfois, malgré le fait qu'on n'a pas une très bonne relation, on y va quand même. C'est un long chemin d'avoir une bonne relation à soi-même. Alors s'il fallait attendre que ce chemin soit fini pour découvrir un peu de sa profondeur... Donc je nuancerai un peu quand même. Ça vous va comme réponse ?
Ça me va.
C'est bon ?
C'est bon ?
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon.
La manière dont vous dites ça, c'est... Il y a d'autres... N'est-ce pas qu'il n'y a pas d'autres questions ? Bon, ben, je vous souhaite un bon chemin à tous.
Merci Emmanuel pour ce bel éclairage. Bonne soirée et bon retour.